ans de développement, mais même aujourd'hui, la règle de dimensionnement des réseaux est qu'on dimensionne un réseau pour des usagers connus à l'avance. On réalise un lotissement, on sait qu'il y a des consommateurs, on ne dimensionne que pour la consommation. On ne prévoit pas pour la production. Ça pose un énorme problème. Ça pose un énorme problème parce que dans un choix d'optimisation de l'économie, on dimensionne les câbles pour gérer la consommation et non pas pour gérer la production. C'est cette graphique. Un petit peu plus, qui est peut-être un peu petit. Vous préférez que je dessine? Oui? Je suis désolée, j'ai des schémas en plein milieu de page. On a le plan de fonctionnement du réseau électrique français. Ici, on a le poste. Ici, on a nos maisons individuelles, nos zones rurales. On va dimensionner la section de nos câbles, enfin, en Enedis, historiquement, on va dimensionner la section des câbles pour que on est dans la plage de tension acceptable, ici, sur toute l'ensemble. Ce qui veut dire qu'au niveau du poste, on est en haut du plage de tension, et dans la maison, on est en bas. Quand on consomme, on fait baisser la tension. Donc on a dimensionné avec une petite marge ici, pour la variation de consommation. Qu'est-ce qui se passe quand je produis? Quand on injecte de l'électricité sur le réseau, sur un câble, quel impact est-ce qu'il a sur la tension? Il va l'augmenter. Donc au lieu d'être ici, donc, le dimanche d'été, tout le monde est au barbecue chez le voisin et personne consomme, mais que je produis à fond, la tension sur cette ligne, elle va être là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ici, elle décroche du poste. Elle décroche du poste. La ligne est décrochée. Ouais. Sauf que ça n'arrive pas parce qu'Enedis fait des études et ils disent « Ah, si on est dans cette situation, ça va décrocher. » Donc, le producteur, vous devez payer une nouvelle ligne avec une section de câble un peu plus importante qui fait que la courbe sera beaucoup plus plate et la production passera sans nous faire sortir de notre page de fonctionnement de tension. Et ça coûte très cher, bien sûr. Pour faire la ligne, des fois, il faut refaire le poste. Donc, on a des installations, 10 kW crête, coût de raccordement au réseau, 76 000 euros. Parce qu'il faut refaire 300 mètres sur poteau, plus changer le poste. C'est un vrai enjeu, c'est un vrai problématique. Dans les zones rurales spécialement, mais aussi, paradoxalement, dans les lotissements tout neufs, où on a dimensionné parfaitement pour la consommation, et si derrière, ils veulent mettre 3 kg de crête sur toutes les maisons, ça ne passe plus du tout. Parce qu'on a une telle surélévation de la tension en été que tout est possible. Donc, c'est un problème de conception qu'on hérite, qui est encore dans les manuels des listes, qu'on essaye lentement à faire évoluer, qu'on arrive tout doucement. Donc voilà les zones où c'est compliqué de faire la production d'électricité, c'est compliqué d'injecter. On a des exemples de simulation dans les zones rurales où on voit que même 5 kW crête sur le village fait décrocher le visage. Donc on peut pas faire 5 kW crête parce que ça rentre pas dans les dimensions. Il y a des solutions, renforcer le réseau, pour les postes de transformation, on peut changer le réglage de tension acceptable. Parce qu'il faut savoir que ici, c'est une plage de tension acceptée, mais le poste, en fait, il ne décroche pas là. Il décroche ici, mais on réserve la tension pour de profondément de l'HPA, pour ci, pour ça, etc. C'est pas la réalité. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais dans les cas, de toute façon, ça coûte trop cher, donc on va aller vers des solutions d'autoconsommation où on a très peu d'impact sur le réseau. Et on va essayer de dimensionner les installations sur une zone ou sur une maison de façon à ce que on a très peu ou pas d'impact sur le réseau. Alors ça peut passer par plusieurs choses, et je vous en parlerai dans pas longtemps. Juste Il faut savoir que tout ne pousse pas vers l'autoconsommation. Il y a d'autres solutions. Il y a le raccordement indirect, qui est, on parlera donc, qui est le porteur du projet, mais le raccordement indirect, en gros, il permet à ce que un producteur peut se brancher sur le circuit interne d'un consommateur sans qu'il soit le consommateur lui-même. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'au réseau pour bénéficier de l'obligation d'achat. Et ça c'est important typiquement sur le lycée où vous voulez un personne tierce qui va réaliser l'installation et pouvoir se brancher sur le lycée au lieu d'avoir à faire 200 mètres de tranchée pour aller au poste, qui peut être prohibitif en termes de coût de raccordement. Il y a un autre sujet qui était pendant longtemps, c'est que les plans particuliers, ben, malgré toute cette question sur la technicité et où est consommé les kilowattheures, les gens ils disaient je veux quand même consommer moi-même, je ne veux pas que ça passe par un compteur, je veux bien vendre surplus. Sauf que le branchement, on vend du surplus, ça me coûte la même chose que vendre en totalité, mais comme je vends moins de kilowattheures, j'ai beaucoup plus de mal à trouver un équilibre économique. C'est plus le cas aujourd'hui. Le nouveau barème de raccordement de l'hélice est entré en vigueur au 1er novembre, qui fait que dans 80%, le choix de faire une vente du surplus engendre un coût zéro de raccordement au réseau. Donc, ce qui était, pendant les dernières 2 ans, souvent un fort motivateur de dire « je vais faire l'autoconsommation parce que le coût de raccordement au réseau est vendu surplus est trop cher », n'existe plus. On a beaucoup d'intérêt à faire des ventes du surplus, avoir une rémunération de nos excédents, de ne pas brider la puissance de l'installation qu'on va réaliser. Parce qu'il faut savoir qu'en autoconsommation totale, encore aujourd'hui, on a une injection zéro, obligatoire. On va avoir une tolérance, mais ça va venir à un coût. On paiera des frais pour avoir une tolérance de pouvoir injecter un peu. Quand même, en tant que professionnel, je ne sais pas à quel pourcentage, mais aujourd'hui, vous allez avoir un client sur 3 ou un client sur 4 qui va dire « Je veux une installation en autoconsommation !» Comment est-ce que vous répondez? Si vous avez le bagage commercial pour leur expliquer ce qu'on a discuté ici, la question d'aller avec, de les envoyer voir leur banquier, de regarder la mobilisation de capital, peut-être vous pourriez les orienter rapidement. Si vous n'arrivez pas à le faire, il y a quand même quelques éléments indispensables à faire avant de proposer une installation d'autoconsommation, et une, c'est l'étude. Faire une simulation de courbe de charge ou de consommation du site. C'est indispensable. Vous regardez les équipements qu'ils ont. Ils n'ont pas de congélateur, gros congélateur. Il n'y a pas de chasseur dans la famille, donc c'est juste pour le glace, c'est un petit truc. Pas de piscine. Réfléchissez, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir consommer la puissance qu'ils me demandent les dimanches d'été? Encore mieux. Encore mieux. Le mardi de juillet, avant qu'ils partent en vacances, quand les enfants sont encore à l'école et qu'il n'y a personne dans la maison. Réfléchissez au fait que le frigo, il ne tourne pas en permanence. Donc, ça s'improvise pas. Sinon, il y a des clients déçus derrière qui disent « On m'a dit que j'allais autoconsommer 80% de machin chose, mais finalement, je consomme que 35%, je ne trouve pas ma rentabilité, je me suis fait arnaquer. » C'est indispensable pour garder une bonne relation avec ses clients de faire cette phase d'étude. Il y a un appel d'offres sur l'autoconsommation, le prochain échéance est le mois de février, c'est compliqué, mais pas trop compliqué, il faut vendre vos compléments de rémunération, ça c'est très compliqué, je vous déconseille. Mais, vous pouvez nous appeler si vous avez besoin de plus de détails sur cet appel d'offres, pas de souci. Comment est-ce qu'on rémunère l'obligation d'achat? Je ne vous ai pas parlé de la dernière. Vous n'êtes pas obligé de vendre dans le cadre d'un mécanisme de soutien, mais on passe par l'État. Vous n'êtes pas obligé de compter sur la consommation d'électricité pour mener. Vous pouvez aller chercher un acheteur. Typiquement, à l'époque, si vous allez sur leur site web, ils vous proposent d'acheter. C'est pas très élevé, pour 6 centimes d'euros, mais pas plus d'installations. Ils sont prêts à vous acheter votre production. Les installations plus grandes aussi. Vous n'êtes n'est pas obligé de passer par tout ça. Il y a d'autres acheteurs qui commencent à se manifester et dire on ne peut pas proposer des tarifs équivalents, mais on a des solutions. Donc une collectivité locale qui voudrait faire une grande installation en vente du surplus pour couvrir l'ensemble de leur consommation, mais qui a du surplus, c'est peut-être une solution. Il n'y a pas d'élément de risque dans la réponse à un appel d'offres. On n'est pas bridé par 100 kW crête dans un rayon de 250 mètres. Et si on a construit la rentabilité économique sur la consommation évitée, la partie vendue en surplus, il a juste besoin de couvrir les frais de raccordement et les tarifs d'utilisation du réseau public. C'est possible. Donc il y a d'autres alternatives. Est-ce que c'est une question qu'on vous a posée, que vous vous posez des centrales villageoises? Je sais que c'est quelque chose qui fait écho à beaucoup de monde dans les zones rurales, l'Ardèche, donc là, dans le PNR. C'est une question qui nous revient assez régulièrement par les gens qui sont motivés, mais pas pour les installations chez eux. Les installations collectives. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Différents mécanismes pour rémunérer vos kilowattheures. Qu'est-ce qui peut porter un projet? Comment est-ce que vous pouvez accompagner un client pour porter un projet? Bon, il y a la particulier, c'est assez évident que c'est à lui le capital ou l'investissement avec sa banque. Après, les collectivités locales, toutes les collectivités locales peuvent y investir. Ils peuvent être ici. Différents articles des lois, et quelque chose de très récent qui est vraiment très intéressant, c'est que si on part sur l'idée, on veut vraiment faire un fort développement territorial, donc on va essayer de faire des grappes de projets, on va impliquer tout le monde, et au lieu de faire chez toutes nos habitants, on va essayer de mettre un pot commun qui nous permettrait de faire certains systèmes de 3 kW, d'autres de 10, d'autres de 15 et un de 100. Et les différents niveaux de rémunération les uns l'autre, certains c'est très favorable, d'autres c'est pas très bon, mais sur la globalité, on a trouvé tout bien. On peut faire venir ensemble la collectivité, les entreprises locaux, les investisseurs, les tiers, et des particuliers dans le même véhicule, parce qu'on a ouvert le capital à ce type de société ou collectivité qui leur permet de monter dans la démarche. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récent et qui va venir outiller les territoires pour les installations de taille moyenne, des tailles moyennes qu'on voit souvent un intérêt à quoi le faire. Raccordement en direct, je vous ai donné deux mots, mais c'est pour vous dire que c'est à partir de 36 kV, donc c'est pas les petites installations, mais on peut aussi dissocier, on n'est plus contrainte de faire un raccordement jusqu'au réseau public de distribution si on veut mettre quelque chose sur une zone commercial, ZAC, un lycée, un collège, on peut se brancher sur un réseau interne et quand même vendre dans les cadres de l'obligation d'achat ou à notre acheteur. Et on a déjà des réalisations dans ce contexte en France aujourd'hui. Donc, ça peut résoudre des problèmes liés au coût du raccordement au réseau. Parce que si le site est alimenté en HTA avec leur propre poste, normalement, quand on fait un raccordement au réseau d'installation de production, il faut le raccorder aux tensions des livraisons. Donc ça peut être compliqué. Donc en gros, tout le monde peut porter un projet. Il n'y a pas de limite. Comment est-ce qu'on finance le projet? Quand on choisit le porteur, ça peut être en main propre, par un tiers investisseur. Le tiers investisseur, quand c'est des développeurs privés, en général, ils vont sur les projets très rentables, de taille importante. Ce qui est compliqué, ce qui est petit, ça ne les intéresse pas trop. C'est des professionnels et ils n'ont pas forcément beaucoup de volonté de passer beaucoup de temps sur ces projets. Mais il y a des alternatives aujourd'hui. Il y a l'investissement citoyen qui est prêt à investir le temps et l'énergie nécessaire à développer ce genre de projet. Il y a des bonus participatifs dans les appels d'offres et il y a des règles de publicité facilitées pour l'incitation à investir dans une société de production d'énergie renouvelable. Avant, il fallait très attentif de pas tomber sous une interdiction de l'autorité des marchés financiers. Ça a été assoupli il y a deux mois, donc ça facilite pas mal de choses sur ça. Et dernièrement, la question de la vente en autoconsommation. Est-ce que
Est-ce que moi, en tant qu'installateur PV, je peux dire il y a un exploitant d'une installation chez sur le Noroto du coin et vend directement à l'occupant du bâtiment sans être considéré comme un revendeur d'électricité, donc sans avoir besoin de passer toutes sans être agréé par l'État, ben oui, parce qu'on vend un client final et on ne vend que sa production, on ne vend pas quelque chose qu'on a acheté puis revendu. C'est pour ça qu'on parle que de tarif d'achat et de tarif de rachat. C'est pour ça qu'on parle de la vente et non pas de la revente. Parce que l'achat-vente d'électricité, c'est pas du tout le même métier, pas du tout soumis aux mêmes réglementations. Mais oui, on peut le faire aussi aujourd'hui, ça ouvre aussi des perspectives intéressantes s'il y a un hypermarché qui a pas envie de s'investir dans ça, mais qui a d'autres structures qui ont envie de faire ça. Il y a des montages intéressants à faire. 1h15. Vous m'avez donné 1h30, c'est ça? Question incluse. On va essayer d'aller vite. C'est en fonction de... Est-ce que les chaises sont confortables ou non? Qu'est-ce qu'il y a de neuf sur le soleil? Il y a des évolutions technologiques dans la recherche fondamentale. On commence à parler de cellules perovskites qui tient plus de 2 heures avant de dégrader. Enfin, ça, c'est la recherche fondamentale. Donc, c'est pas tout de suite qu'on va avoir de nouvelles matières. C'est encore du silicium. Les évolutions récentes aujourd'hui, en fait, elles sont pas tellement sur la production d'électricité. Elles sont beaucoup plus sur les usages, le pilotage, éventuellement le stockage, le surveillance, enfin surtout le cycle de production et non pas la réalisation. Ça, c'est un transparent qui perdure à Espoule. J'ai changé les deux photos. Hein. Qui perdure depuis une de mes premières présentations en 2002. Je sais pas si on peut vraiment parler d'évolution technologique ou non, parce que ça existait en 2002, mais les modules ou les micro-onduleurs, les onduleurs modules ou les micro-onduleurs, on a classiquement un fabricant Enphase qui monte en flèche aujourd'hui. Ils sont intéressants parce qu'ils permettent de mettre un onduleur par module, qui fait que tout le câblage après, il est en courant alternatif. Au niveau de sécurité, c'est très intéressant. Les électriciens, la plupart des électriciens, à moins qu'ils soient formés spécifiquement, ont en général oublié leur cours sur le courant continu. Donc, l'enjeu de sécurité qui est différent entre les deux. Pardon? Alors, on en viendra. Donc, ça, c'est une des premières avantages. Qui dit câblage en courant alternatif veut dire réduction des sections de câbles. Donc si vous êtes en train de faire une brise soleil, par exemple, ça peut être très intéressant, parce que si vous devez revenir derrière, voilà, donc réduction de sections de câbles, pas d'interférence entre les modules, donc si vous avez le connectique d'un module qui est en rad, ça ne va pas impacter la production des autres modules. On peut avoir donc le suivi de la production au niveau du module, et dans des installations compliquées, on peut avoir un meilleur rendement. Quand je parle d'une installation compliquée, je parle de la maison à 4 pans. Ou du site qui a un chêne centenaire qu'on est interdit de couper, qui fait qu'on a des morceaux de l'installation qui est ombragée à des moments différents de la journée. Le fait d'avoir des micro-onduleurs va permettre à chaque module d'être à son rendement maximal. Donc sur ce site, là, on va avoir une amélioration du rendement. Par contre, sur une installation qui est tout dans le même plan et qui n'a pas de tout d'ombrage, on ne va pas avoir de différence vraiment marginale dans la performance. Donc très intéressant pour de nombreuses raisons. Et on sait aujourd'hui que les STIS sont très intéressés par ces modules parce qu'à partir du moment où tout le câblage est en courant alternatif, ils savent beaucoup mieux comment gérer les interventions des conflits. Donc voilà. En coût global, chez un particulier, c'est un petit peu plus cher, mais quand on commence à parler d'une installation plus grande, où on a un système de monitoring et de surveillance intégré, le coût global, il peut revenir au même. Parce que on on va forcément prendre ce système de surveillance qui est obligatoire avec cette solution. Et donc, du coup, on arrive sur des coûts à peu près semblables. Voilà. Inconvénient, c'est un inconvénient pour, tout simplement dans le sens que les petites installations, ça alourdit le coût. Ou si on a déjà choisi un autre système de monitoring parce qu'on a un parc et qu'on ne va pas se voir imposer sur ce lieu.
Assez, ça signifie quoi?
Courant alternatif, excusez-moi.
Alternatif,
on considère que c'est un module, c'est un module qui est en courant alternatif. Le courant qui sort du module, il n'est plus en courant continu, il est en courant alternatif.
Mais DC, alors, c'est le mot direct.
Direct. Alternating et direct.
C'est des acronymes anglais.
Oui, excusez-moi. Et je crois que c'est même pas moi qui l'ai écrit. Même si c'est ma langue maternelle, je crois que c'est pas moi, c'est mon collègue.
Mais c'est l'usage
en même en électricité, oui. ACDC.
ACDC, c'est l'usage.
ACDC.
Ça vient de ça. Hein.
J'aurais appris quelque chose ce soir.
Ah ben oui. Je vous donne une petite anecdote sur ACDC, ça vous intéresse? J'ai grandi en Australie. Comme beaucoup, j'ai fait du sport. Et dans notre salle de sport où je faisais mes activités scolaires, deuxième concert d'ACDC de leur carrière a eu lieu là-dedans. Avant que ce soit les connaître, voilà, c'est là. Donc c'est un groupe australien, ils ont choisi ça parce qu'ils faisaient des musiques qui allaient vite et qui faisaient le buzz quand on prend un... Je ne dirais pas qu'elle a gêné. D'autres nouveautés, ça c'est relativement récent et c'est très intéressant qu'on va suivre de près, c'est l'onduleur avec la détection de défauts modules intégrés. Donc c'est des onduleurs qui commencent à internaliser des fonctionnalités qui sont souvent mises dans du matériel externe. Donc ils vont pouvoir vous dire, en fonction du nombre de branchements, du nombre de séries qu'on a, il y a un défaut sur cette série ou un défaut sur ce module, et ils vont aider dans le diagnostic et la programmation de la maintenance curative, par exemple. Donc c'est une évolution assez récente. Et il peut y avoir du stockage intégré. Donc il y a plein de marques, le plus célèbre c'est Tesla, qui ont un Powerwall qui intègre onduleur et stockage. Je reviendrai dans quelques minutes sur la question du stockage, si vous me permettez. Parce qu'on parlait là, on finit sur ces sujets, on revient au stockage. Et qui peuvent gérer autre chose, mais en gros, ils gèrent la production d'énergie. Donc, de la détection des défauts intégrés, je vous en ai parlé, je crois qu'on en parle dans le brochure qu'il y a sur la table aussi. Ouais, ils font pas que les téléphones, ils font aussi les onduleurs. Là où on voit de plus en plus d'évolution ou d'accessibilité, c'est dans les appareils de surveillance et de suivi de la production. Ce qui était autrefois réservé à des installations importantes commence à se démocratiser et faciliter la détection de défauts, la détection de non-fonctionnement, tout simplement. Vous savez, pendant très très longtemps, la principale source de non-fonctionnement d'une installation photovoltaïque, allez, je fais un coup à boire après à celui qui trouve la bonne réponse. Quelle était la principale source de non-production, de défaut de production d'une installation photovoltaïque?
Un mauvais branchement.
La
pauvreté.
Surtension réseau qui a fait disjoncter le disjoncteur. Rien à voir avec l'installation photovoltaïque. Mais il ne tournait pas. Parce qu'on a une surtension réseau qui fait disjoncter. Donc la question de la surveillance, elle devient beaucoup plus accessible pour les différentes installations, et c'est vraiment une des évolutions technologiques que nous on trouve plus intéressant et plus pertinent, parce que avoir un parc de 6,1 gigawatts, ça nous intéresse, mais avoir un parc en fonctionnement de 6,1 gigawatts, ça nous intéresse encore plus aussi. Et on sait qu'il y a des installations posées qui ne tombent pas parce que personne ne les surveille. Ça nous fend le cœur chaque fois on entend parler. Et je ne savais pas qu'il fallait que je facture, et je me suis rendu compte que mon installation n'a rien produit depuis 2 ans et demi. C'est
On a donc des systèmes de monitoring intégrés dans les onduleurs, le SMA, Sandbox, M-Phase, les onduleurs, les micro-onduleurs, enfin plein de solutions différentes en fonction des fabricants. On a des appareils d'acquisition de puissance qui soient ce grand qui lient les clignements de LED sur les compteurs, ou bientôt ce branchement sur le, la sortie type des compteurs Linky, et qui permet de suivre la puissance instantanée, donc faire une courbe de charge de production. Puis les systèmes de monitoring indépendants qui peut être que l'appareillage, donc, ou qui peut être lié à une plateforme web avec des détections d'anomalies et tout ce qu'on veut, avec des coûts très variables en fonction de ce qu'on choisit. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a un offre à peu près adapté aux installations de 3 kg de crête, il faut être motivé, mais c'est encore possible. Et pour ceux qui ne veulent pas de tout ça, sur photovoltaïque.info, on a fait un outil très low-tech, ça s'appelle du papier et un crayon, à imprimer des courbes de charge, des courbes de production, pardon, à coller à côté du compteur qui permet, mois par mois, de suivre la production pour quelqu'un qui n'a pas envie d'investir là-dedans, mais qui peut être régulièrement fait enlever, qui permet de détecter sans trop tarder un problème. J'ai parlé des problèmes sur le réseau où des fois on ne peut pas mettre 5 kg de crête parce qu'on fait disjoncter le réseau. Ou en tout cas, c'est ce que Julien a dit, c'est qu'on n'a pas envie de payer 80 000 euros de changement de poste et renforcement. Mais peut-être 4,5 kW en injection, ça passe. On commence à avoir des appareils qui permettent d'écréter la production. Ça veut dire que je demande, mon installation il fait 15 kg de crête, mais je demande en raccordement plus KVA. Et je mets un appareil qui fait que chaque fois que je dépasse cette puissance, il m'écrète la production. Donc je vais perdre une partie de la production, oui, mais en contrepartie, je ne vais pas payer tout le renforcement du réseau et donc quand même je peux trouver un équilibre économique sur mon projet. On a des exemples, par exemple, un écrètement à 70% de la puissance maximale. On perd relativement peu en termes d'heures de fonctionnement. Ici, c'est une grandeur de fonctionnement. L'installation, en gros, la production va se passer dans 1500-2000 heures de fonctionnement. Il tourne en gros en Ardèche autour de 1100-1250 heures de fonctionnement à pleine puissance. L'équivalent de ça. Mais c'est étalé sur un fonctionnement de pleine puissance, moyenne puissance, plusieurs puissances. Donc on a un écrètement à 70% de la puissance maximale, on va perdre 1% de la production. Donc cette notion d'écrètement pour s'ajuster aux contraintes réseau commence à être quelque chose sur lequel on peut travailler activement et utiliser. Donc on peut tout à fait faire une installation à 12 kW de crête et demander un raccordement à 9 kVA. Ou faire une installation à 9 kW de crête et demander un raccordement à 6 kVA en monophasé, qui peut être très intéressant en termes de optimisation du coût de raccordement au réseau. On reste en monophasé et on perd un petit peu en production, mais on réduit significativement le coût de raccordement au réseau. Et il y a des appareils disponibles sur le marché. Hein. Sur l'installation BioCut Meles que nous avons accompagné et qu'on a fait la prescription technique sur le raccordement, on a mis un prologue de CACO dessus avec une consigne de puissance d'injection à zéro, en l'occurrence, mais on aurait pu le mettre à 100 watts, à 100 kW. Mais c'est des appareils qui fonctionnent de cette manière. Voilà, donc on peut écrêter la production et c'est aussi une des réponses aux problématiques du réseau, des coûts de renforcement.